Merci beaucoup. Si vous pouvez garder ce passage ouvert sous les yeux, ça serait génial. Ça se trouve dans le feuillet que vous avez. Nous allons prier pour l'aide de Dieu. Courage avec les enfants, courage aux enfants. Et nous allons prier ensemble. Notre Père, te louons pour ta parole. Merci parce que par ta parole, tu t'adresses à nous encore ce matin. Merci de nous donner des oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire et que nous puissions réagir de manière qui te glorifie. Et cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, on arrive à la fin de 2021. Quel bilan pour vous? Quel bilan l'année 2021? Comment ça a été? Est-ce que vous avez pu accomplir ce que vous avez espéré faire cette année? Ou est-ce que c'était une année un peu frustrante? Je pense pour la plupart d'entre nous, ça a été une année un peu frustrante. Peut-être des mauvaises nouvelles sont tombées sur nous. Peut-être on a vécu des déceptions, des découragements. Mais qu'en est-il dans la vie chrétienne, dans notre vie avec le Seigneur? Mais comment est-ce qu'on l'a trouvé de vivre pour Jésus cette année? Si vous êtes comme moi, j'imagine que vous avez un peu galéré. Vous avez un peu galéré en essayant de vivre pour Jésus dans un monde qui le rejette. Peut-être nos collègues au travail, peut-être les membres de notre famille, nos amis, ils ne veulent pas penser à Dieu. Et nous essayons de vivre pour Jésus. Et ce n'est pas facile. Le bilan pour 2021, ce n'était pas facile de vivre pour Jésus. Mais si on avait posé la même question au roi David, il aurait dit la même chose pour lui. Vivre pour Dieu dans un monde hostile, ce n'est pas facile. Pas facile. Et dans ce psaume, le psaume 5, nous voyons comment il réagit, comment il s'y prend face à cette réalité. Difficile de vivre pour Dieu dans un monde qu'il rejette. Et vous voyez déjà dans les versets 1, 2 et 3 comment il réagit. Relisons les versets 2 et 3. Il dit « Prête l'oreille à mes paroles éternelles, comprends mon gémissement, sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. » Il lance un cri d'appel, c'est un cri du cœur à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on apprend à travers ce cri du cœur pour nous aider à vivre pour Jésus dans 2022 qui s'approche à grands pas? Mais nous allons voir trois choses ensemble. La première chose que nous voyons, c'est la confiance du roi, la confiance du roi. Au verset 2 à 8, la confiance du roi. Vous avez vu ça? Verset 4, David prie vers Dieu. Verset 4, « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me présente à toi et je guette. » Je ne sais pas pour vous, mais le matin, ce n'est pas facile comme moment de la journée. On a difficile de se lever du lit, sortir du lit, surtout s'il fait gris comme ça. Pas facile de sortir du lit. Mais qu'est-ce que David veut faire? La première chose, il dit deux fois, le matin, je m'adresse à toi. Et lui, il est confiant que Dieu entend sa prière. Vous avez eu l'impression parfois que vos prières, c'est juste des paroles qui arrive jusqu'au plafond et pas plus loin. En fait, David dit non. Dieu, tu entends ma voix. Tu entends ma voix. Il a confiance que Dieu l'entend. Mais comment est-ce qu'il a confiance? Mais c'est le caractère, c'est ce qu'il connaît de Dieu qui le rend confiant et qui le pousse à prier Dieu. Et du coup, verset 4, à la fin, il guette. Il guette pour voir comment Dieu va répondre à ses prières. Peut-être que vos enfants, ils attendent avec impatience l'arrivée de leurs grands-parents. Est-ce qu'ils sortent presque dans la rue pour aller voir s'ils sont arrivés? Ou peut-être lorsqu'on envoie un mail important et on veut une réponse, est-ce qu'on est en train de vérifier nos mails tous les 10 minutes? David envoie sa prière et il guette pour savoir comment Dieu va répondre. Mais il sait que Dieu va répondre parce qu'il connaît le caractère de Dieu. Et notamment, il connaît deux choses sur son Dieu. La première chose, il connaît que Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu qui est saint. Nous voyons ça au verset 5 à 7. Relisons ces versets. « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourne pas auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse. » Pourquoi est-ce qu'il a de la confiance lorsqu'il prie? Il y a un « car » au début du verset 5. « Car tu es un Dieu qui ne prenne pas plaisir au mal. » Donc si David, il est entouré d'ennemis, mais c'est réconfortant pour lui de savoir que Dieu prend la méchanceté au sérieux. Si les gens rejettent Dieu, Dieu n'est pas indifférent à cela. Et en tant que croyant, c'est réconfortant. Mais nous voyons six choses sur Dieu et sa relation avec le mal. Vous avez vu ça? Il ne prend pas plaisir à la méchanceté. Notre société souvent rigole de la méchanceté ce jour-ci. Mais Dieu, non. Deuxièmement, le mal ne séjourne pas auprès de lui. Et le verbe « séjourner » traduit ici, ça veut dire vraiment un séjour de courte durée. Mais ce n'est pas possible que le mal cohabite avec Dieu. Est-ce que vous avez reçu des gens chez vous et vous dites « Ok, ça allait, ils sont partis, mais on ne pouvait pas faire une nuit de plus. » Est-ce que ça vous est arrivé? Peut-être jamais. Peut-être vous êtes des hôtes remarquables, vous ne dites jamais cela. Mais avec Dieu et le mal, pas possible que les deux coexistent en même temps. Ensuite, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Et puis, c'est assez choquant, est-ce que vous avez lu ça, verset 6? Tu as de la haine pour tous ceux qui commettent l'injustice, de la haine. Choquant, non? On connaît le dicton, Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Vous avez entendu cela? Dieu aime le pécheur, mais déteste le péché. Mais qu'est-ce que ce verset dit? Dieu déteste le pécheur, en quelque sorte. C'est ça ce que le verset dit. Bien sûr que Dieu offre son amour envers tous dans l'Évangile. Et chaque personne qui se tourne vers Dieu sera sauvée dans le grand amour de Dieu. Mais tant qu'on refuse l'amour de Dieu, Dieu éprouve de la haine envers ceux qui commettent l'injustice. Et n'est-ce pas une bonne chose? Lorsque nous, on regarde à la télé, lorsqu'on voit des choses injustes qui se font, on est énervé, il y a une réaction en nous. On est dégoûté par cela. N'est-ce pas une bonne chose qu'il y a un Dieu qui a de la haine envers ceux qui commettent l'injustice? C'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'il va faire du coup Dieu avec ces personnes? Verset 7, il fera périr ceux qui profèrent le mensonge. Pourquoi? Car l'Éternel a en horreur les hommes de sang et de ruse. Donc Dieu a en horreur toute sorte de mal. La ruse, la violence, l'injustice. David connaît son Dieu. Il connaît que c'est un Dieu saint. Peut-être que nous, on doit un peu changer notre image que nous avons de Dieu, si cela ne correspond pas au Dieu qui est dépeint dans la Bible ici. Mais si David crie à l'aide à Dieu face à ses ennemis, ceux qui s'opposent à Dieu, cela leur rassure de savoir que Dieu n'est pas indifférent à ceux qui rejettent Dieu. C'est réconfortant pour David. Il y a un théologien croate, un monsieur Miroslav Volf, qui a vu la guerre ravager son pays. Et il a dit ceci, « Si Dieu n'était pas en colère contre l'injustice et la tromperie, s'il ne mettait pas un terme définitif à la violence, il ne serait pas digne de louange. » Un autre auteur dit, il faut avoir vécu une vie très protégée de ne pas avoir envie que justice se fasse. C'est une bonne chose que Dieu est saint. Et pourtant, si on connaît un peu la vie de David, n'est-ce pas un peu osé pour David de dire ce genre de choses? Nous savons que Dieu, David, il a menti. Nous savons que David, il a commis le meurtre. Nous savons qu'il a commis l'adultère aussi. Comment est-ce qu'il peut louer Dieu qui va punir les méchants là-bas? Et nous, nous avons le même dilemme aussi. Si nous savons que Dieu va punir les méchants, on sait qu'il devrait nous punir, nous aussi. Nous chantons le chant, je pense vous chantez cela, vous l'avez aussi, « C'est par la croix », si vous connaissez cela. Cela commence ainsi, « Comment pouvons-nous souiller, impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint ?» C'est ça notre dilemme ici. David dit que Dieu déteste les méchants, mais on est tous méchants. Comment s'en sortir? Comment nous approcher de Dieu avec confiance? Mais c'est parce que David connaît non seulement la sainteté de Dieu, mais la grande bienveillance de Dieu. Ça, c'est au verset 8. Regardez au verset 8. David dit, « Mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison. Dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton Saint-Temple. » Et il ne dit pas, « Ah, tu détestes les méchants, mais moi, je peux entrer dans ta présence parce que j'étais quelqu'un de bien. » Ou « Toi, tu détestes les méchants, mais c'est OK pour moi parce que j'ai toujours obéi à tes commandements. » Non. Qu'est-ce qu'il dit? « Tu détestes la méchanceté, mais moi, je peux entrer dans ta présence. » Comment? Par ta grande bienveillance. Par ta grande bienveillance. Le mot bienveillance, c'est un mot clé dans la Bible, dans le livre des psaumes. Et ça veut dire un amour fidèle qui ne change jamais. Et surtout envers un peuple qui est tout à fait pécheur comme nous. On peut penser à des gens qui sont restés mariés pendant 60 ans. J'ai entendu dernièrement que la reine de l'Angleterre était mariée à son mari pendant 73 ans. 73 ans de mariage avant que Philippe ne décède cette année. C'est un amour fidèle. Un amour fidèle. Et Dieu fait preuve d'un amour fidèle envers des gens comme David et comme nous, qui ont un cœur pourri, mais qui se sont tournés vers lui. C'est extraordinaire. Nous chantons parfois « L'amour de Dieu de loin surpasse » ce qu'on peut dire, un cœur humain. L'amour de Dieu si fort, si tendre, un amour sans fin. Et c'est par cet amour seul que David peut entrer dans la présence même de Dieu. Il connaît la sainteté de Dieu. Mais il connaît aussi la grande bienveillance de Dieu. Et nous voyons ces deux aspects du caractère de Dieu, sa sainteté, sa bonté, le plus clairement à un seul moment dans l'histoire humaine. C'est lorsque le descendant de David a été cloué sur la croix. Nous voyons la sainteté de Dieu. Il doit punir le mal. Et la grande bienveillance de Dieu. Il déverse le châtiment que nous méritons sur les épaules de son Fils, Jésus. Par la mort de Jésus, chaque personne dans cette salle, si nous confions en lui, nous pouvons entrer dans la présence d'un Dieu saint. Par ta grande bienveillance, j'entre dans ta maison. Pas la maison, pas un bâtiment, mais la présence de Dieu. Ou comme le dit le Nouveau Testament, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est un trône de grâce. Et le chemin nous a été ouvert par le descendant de David. C'est pour cela que David est confiant. C'est pour cela que nous pouvons être confiants face aux ennemis qui nous entourent peut-être, ayant du mal à vivre pour Jésus. Nous pouvons venir librement devant Dieu grâce à sa grande bienveillance. Mais si c'est ça la grande confiance du roi, qu'est-ce qu'il prie en fait? Qu'est-ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui? Et ça on voit deuxièmement verset 9 à 11, la prière du roi. La prière du roi, verset 9 à 11. Pourquoi crie-t-il à Dieu? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il demande deux choses. Et la première, c'est au verset 9 et 10. « Conduis-moi dans ta justice. Aide-moi à vivre pour toi, Dieu. Aide-moi à vivre pour toi. » Lisons le verset 9. « Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes détracteurs. Aplanis ta voie devant moi, car il n'y a rien de sûr dans leurs propos. » Il demande à Dieu que malgré la pression des gens autour de lui, il puisse vivre dans la justice, qu'il puisse suivre la voie de Dieu. Lorsque nous, on entend la prière de David, « Conduis-moi », à quoi est-ce qu'on pense instinctivement? Souvent, nous, on pense « Ah, conduis-moi, Seigneur, pour savoir dans quelle ville je dois habiter ou dans quel boulot je dois travailler ou quelle personne je devrais marier. » En fait, la Bible ne parle pas vraiment d'une conduite, d'une direction divine comme cela. La Bible ne nous encourage pas à demander à Dieu des choses qu'il n'a pas promis de nous révéler. Ce que David demande ici, il demande d'être fidèle à ce que Dieu lui a déjà révélé dans sa parole, la Bible, sa voix, ses voix, ses commandements. Donc David prie, aide-moi à suivre tes commandements. Aide-moi à suivre tes commandements. Et pourquoi est-ce qu'il a du mal à faire ça? Vous voyez, il y a deux fois « à cause d'eux » ou « car » dans le verset 9 et 10. « Éternel, conduis-moi dans ta justice. » Pourquoi? « À cause de mes détracteurs. » »« Aplanis ta voix devant moi. » Verset 10. « Car il n'y a rien de sûr dans leurs propos. » Il doit prier que Dieu l'aide à vivre pour lui parce que c'est tellement difficile. Dans un monde rempli de gens qui ne veulent pas suivre Dieu, nous avons besoin de crier au secours à notre Dieu. Peut-être vous vivez ça à l'école, vous êtes le seul à l'école qui croit en Jésus. Les gens se moquent de toi. On peut prier, aide-moi à vivre pour toi. À l'université, on est souvent seul. Au boulot, même à la famille, en famille, aide-moi à vivre pour toi. Peu importe ce que les autres pensent. Parce que faisaient les ennemis de David? Au verset 10, on voit qu'ils ne commettaient pas de violence physique, mais leur crime porte sur leur parole. Vous avez vu ça, verset 10? Notez les parties du corps qui sont mentionnées au verset 10. Il n'y a rien de sûr dans leurs propos ou leur bouche. Leur être intérieur n'est que ruine. Leur gosier est un sépulcre ouvert et leur langue, ils la rendent flatteuse. Ils tendent des pièges à David par leur parole. Le gosier est un sépulcre ouvert. C'est comme si chaque fois qu'ils ouvraient la bouche, c'est comme s'ils ouvraient un cercueil contenant un cadavre. Il y a la puanteur de la mort. Si vous suivez ce qu'ils disent, vous irez à la destruction, à la mort. Mais leurs langues sont flatteuses. Donc il n'est pas du tout facile de repérer le danger de ce qu'ils disent. Cela semble si raisonnable, si attirant. Est-ce que vous avez eu des amis qui vous disent, mais arrêtez d'être si extrême dans vos croyances. Dire que Jésus est le seul chemin pour arriver à Dieu. Non, on ne peut pas encore croire comme cela. Vous croyez encore un jugement après la mort? Non, tout le monde ira au paradis. Ou les gens qui nous disent, mais ce qui compte, c'est le fait d'être authentique. On ne peut pas se plier à un code moral imposé par la société ou par Dieu. Non, on doit être fidèle à nous-mêmes. C'est ça le discours que nous entendons jour après jour après jour. Et même si cela semble attirant, David dit qui a la puanteur de la mort derrière. Et donc nous prions, aide-moi à vivre pour Jésus dans un monde qui t'est hostile, Seigneur. Donc ça, c'est la première chose qu'il demande, aide-moi à vivre pour toi. Mais la deuxième chose, c'est peut-être surprenant, verset 11, il demande que Dieu condamne les méchants. Que Dieu condamne les méchants. Lisons le verset 11. « Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Rejette-les à cause de leurs crimes sans nombre, car ils se révoltent contre toi. » Nous trouvons ce genre de verset plutôt difficile à comprendre, difficile à réconcilier avec Jésus qui nous ordonne de tendre l'autre joue ou d'aimer nos ennemis. Est-ce encore possible de prier ce que David prie ici? Mais il faut constater que David ne demande rien d'injuste ici. Et il demande simplement que les gens soient traités selon leurs actes. Il veut que le mal soit puni. Ce qui en soi est une bonne chose. Mais il faut noter également qu'il ne s'agit pas d'un désir de vengeance personnelle de la part de David. Qu'est-ce qu'ils ont fait, verset 11 à la fin, ces personnes? Ils se révoltent contre toi. Pas contre David, mais l'essence du péché du mal, c'est se rebeller contre Dieu. C'est pour cela qu'ils méritent la mort. Mais c'est intéressant que Paul, dans le Nouveau Testament, si vous avez lu l'Épître aux Romains, au chapitre 3, il va citer ce verset ici, le verset 10, pour parler non seulement des ennemis de David, mais nous tous dans cette salle, que nous sommes tous coupables devant Dieu. Donc si on prie pour la destruction des méchants, on est en train de prier pour notre destruction, en quelque sorte. Et nous devons aller plus loin, nous devons voir la réalisation de cette prière dans le descendant de David. Qui a vécu la vie parfaite? Seulement Jésus. C'est lui qui a suivi les voies de Dieu. Mais qui a été traité, verset 11, comme un coupable, alors qu'il ne le méritait pas du tout? Jésus-Christ. Qui a été rejeté loin de Dieu pour nous? Jésus-Christ. C'est extraordinaire, c'est lui qui accomplit cette prière en prenant sur lui-même la colère de Dieu. Et avant qu'il revienne une deuxième fois, il nous laisse encore le temps de revenir vers lui. Donc oui, nous pouvons prier que la justice se fasse, c'est une bonne chose. Mais nous devons aussi prier que les gens reviennent à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Dieu nous a donné l'occasion de faire ça. On prie cela pour les autres. Donc nous avons vu la confiance du roi. Il sait que Dieu va l'entendre, que Dieu va agir parce que Dieu est saint. Et Dieu fait preuve d'une grande bienveillance, la confiance du roi. Nous avons vu la prière du roi. Aide-moi à vivre pour toi, malgré mes ennemis. Et qu'est-ce que cela veut dire? Alors si Dieu répond à cette prière, quels seront les résultats? C'est ça la dernière chose que nous allons voir. Dans les versets 12 à 13, les conséquences pour le peuple de Dieu. Les conséquences pour le peuple de Dieu. Parce que si Dieu exauce la prière de David, les conséquences seront juste géniales. Géniales. Et pas seulement pour lui. Vous voyez ça, verset 12. « Alors tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront. Ils exulteront à toujours. » Et tout les protégera. Ils exulteront en toi, ceux qui aiment ton nom. Car toi, Éternel, tu bénis les justes comme un bouclier. Tu l'environnes de faveur. Donc, ça concerne qui? Mais là, tous ceux qui se confient en Dieu. Le juste, ceux qui aiment le nom de l'Éternel. Les croyants, pas seulement le roi David, mais tous les croyants. Et comment est-ce qu'ils peuvent être appelés justes si nous sommes méchants? Mais c'est en cherchant refuge en Dieu, en croyant en lui. Nous pouvons avoir le statut de juste devant les yeux de Dieu. Et si ça c'est nous ce matin, quel est le résultat? C'est la joie à l'état pur. La joie à l'état pur. Vous avez vu ça trois fois, David dit. Il dit... Ils se réjouiront, ils exulteront à toujours. Ils exulteront en toi. Nous trouvons en Dieu notre plus grande joie. Est-ce que vous l'expérimentez? Même si 2021 a été plein de hauts et de bas, hein, est-ce que nous avons vécu la joie de Dieu qui ne dépend pas des circonstances? Est-ce que nous pouvons élever des cris de joie envers Dieu parce que nous avons été secourus par le descendant de David? Et pourquoi est-ce qu'on doit être dans la joie? Verset 13, voyons ce que Dieu a fait. « Toi, Éternel, tu bénis le juste comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. » Ça ne veut pas dire que Dieu nous promet une vie facile, sans épreuve, en 2022, loin de là, loin de là. Mais qu'est-ce que cela veut dire à la fin du verset 13? « Comme un bouclier, il nous environne de faveur. » Je ne sais pas si parfois vous donnez un câlin à un enfant, ou vous vous rappelez vous-même, vos parents vous ont donné un câlin, vous êtes entouré de l'amour de quelqu'un. Vous êtes si bien. Et n'est-ce pas ce que nous vivons avec notre Dieu? Il nous environne de faveur, de grâce. Parfois on pense que Dieu est déçu de nous. On pense qu'il est un peu frustré de nous si seulement on avait mieux vécu cette année. Non. Grâce à la croix, Dieu nous environne comme un bouclier de sa faveur. Grâce à la victoire du roi Jésus, la faveur de Dieu nous environne de tous les côtés. Nous avons la promesse de la protection spirituelle. Rien ne pourra nous arracher de sa main l'année qui arrivera. Rien ne peut nous séparer de son amour en Jésus-Christ. Et maintenant, nous prions notre Dieu. Mais un jour, nous allons nous prosterner devant lui, face à face, dans sa présence, dans la nouvelle création. Et nous chanterons de joie constamment, sans les larmes, sans opposition. Mais si nous avons vu la confiance du roi, la prière du roi, et la joie pour tout le peuple. Quelles sont les implications pour nous avant de clôturer? Mais premièrement, si vous êtes ici en visite et vous ne connaissez pas encore ce Dieu qui peut donner une joie qui ne change jamais, cela nous donne envie, non, de connaître ce Dieu qui, oui, prend l'injustice au sérieux, mais qui accepte des rebelles contre lui, les bras ouverts, grâce à la mort de Jésus. Si vous êtes en découverte, n'hésitez pas à revenir. Revenez pour entendre plus, pour pouvoir vous-même expérimenter cette joie de trouver refuge en Dieu. Mais si nous sommes croyants en Jésus-Christ, je pense que ça nous encourage énormément, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on trouve cela, vivre pour Dieu dans un monde hostile? Super difficile, super difficile. Mais quels sont les encouragements de ce psaume? Moi, nous avons le caractère de Dieu, un Dieu qui nous entend lorsqu'on crie à lui, un Dieu qui est saint, un Dieu qui est plein de bienveillance envers les pécheurs comme nous, un Dieu qui nous donne de la joie, une joie qui ne dépend pas de nos circonstances, de nos épreuves. Quel Dieu que nous servons, prosternons-nous devant lui, avec la crainte qui lui est due et la joie qui nous donne. Mais deuxièmement, remercions Dieu pour le roi Jésus, lui qui accomplit ce psaume parfaitement, lui qui a été traité comme un coupable, afin que nous soyons traités comme des justes, que nous soyons environnés de sa faveur, le câlin d'amour d'un Dieu. Il n'est plus un juge pour nous, mais notre Père. Quel amour! Et du coup, cette année, suivant l'exemple de David, crions à Dieu. Crions à Dieu, aide-moi à vivre pour toi. Ce n'est pas facile. Mais on sait avec David que Dieu va répondre à cette prière. Il va nous aider à vivre pour lui. Il va nous environner de sa faveur tout au long de cette année. Pas pour nous donner une année plus facile, forcément, mais pour nous donner cette joie qui est un avant-goût de ce que nous vivrons pendant toute l'éternité. Est-ce qu'on pourrait faire ce psaume, le nôtre, cette année, l'année prochaine, 2022? Prions que ça soit le cas pour nous. Prions pour terminer. Dans t'avais dit, mais moi, par ta grande bienveillance, je vais à ta maison, dans la crainte qui t'est due, je me prosterne devant ton saint temple. Car toi, Éternel, tu bénis les justes, comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. Ô notre Père, tu vois à quel point nous galérons de vivre pour toi, à quel point nous luttons contre le péché encore, à quel point nous chutons, à quel point nous écoutons ceux qui nous entourent, qui essaient de nous décourager. Merci pour ce psaume, merci pour ce rappel que tu entends nos gémissements, nos cris vers toi. Merci parce que tu es un Dieu à la fois saint et plein d'amour. Merci parce que nous voyons cela pleinement à la croix, lorsque ton Fils est mort pour nous offrir la vie. Et nous te prions que, justement, l'année qui s'ouvre devant nous, que tu nous aides à vivre pour toi. Que tu nous aides à, malgré tout ce qu'on entend autour de nous, rester centrés sur Jésus, notre roi glorieux. Et merci parce que nous avons toujours, à n'importe quel moment, le privilège de venir devant toi par ta grande bienveillance et de te parler. Et merci parce que tu nous environnes de faveur tout au long de la journée, tout au long de l'année, jusqu'au moment où on te verra face à face dans le monde où il n'y aura plus de larmes, plus de découragement, plus d'épreuves. Viens, Seigneur Jésus. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.